Il est 6h.
Les gens déjà ils sont habitués à être dehors grâce à la météo qu'on a en ce moment. Mais l'intérieur ça va aider un petit peu.
Il y avait déjà des terrasses à partir de demain. Il y aura aussi les salles des restaurants. Nouvelle étape du déconfinement très attendue par les professionnels. Emmanuel Macron ira à leur rencontre dans la Drôme aujourd'hui. Dans ce journal, les procureurs dénoncent le manque de moyens face aux violences conjugales. La mise en garde de Kamala Harris contre les migrants du Guatemala ne venait pas, martèle la vice-présidente américaine. Et puis si vous cherchez une destination touristique originale pour cet été, rendez-vous à la fin de ce journal. Prix du billet, un peu moins de 3 millions de dollars.
À suivre, le journal des sports de Lénaïque Monnier et puis mon invité inattendu, passionné de numismatique, l'étude des monnaies anciennes. On verra si c'est aussi ça qui l'a amené à devenir plus tard ministre des Finances. On parlera surtout de cette vente aux enchères aujourd'hui où une pièce d'or des années 30 pourrait partir pour plus de 8 millions d'euros à New York.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Emmanuel Macron continue son tour de France, deuxième étape dans la Drôme. Aujourd'hui, à la rencontre des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. À la veille de l'élargissement du déconfinement, à moins d'un an de la présidentielle, le chef de l'État souhaite prendre le pouls du pays. Mais au-delà de ça, Jean-Rémy Baudeau, Emmanuel Macron tente de capter les signaux faibles.
Oui, car aller sur le terrain ne suffit pas. Souvenez-vous de l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron. Novembre 2018, à l'époque, il rencontre des milliers de Français sur les routes pendant une semaine et ne perçoit pas la colère des Gilets jaunes qui éclatera deux semaines plus tard. Ce tour de France, c'est donc retrouver la réalité actuelle du pays, théorise un conseiller. Mais en coulisses, l'Élysée travaille surtout à repérer les signaux faibles, ces colères qui peuvent s'agréger et devenir une menace politique. Les compteurs Linky, les cantines scolaires, les horaires de train, autant de sujets de la vie quotidienne comme autant d'irritants. Les éoliennes, ceux qui n'ont que le paysage pour patrimoine, ils ne les acceptent pas, cite en exemple un proche du président. Emmanuel Macron et ses équipes notent donc tous les sujets lors des réunions avec les élus comme lors des bains de foule. Un double enjeu pour le chef de l'État, éviter le piège d'une fronde populaire ou sociale pour sa dernière année de quinquennat et nourrir son futur programme en tentant de répondre à ses colères.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Alors justement, à la veille de la réouverture des salles, des restaurants, est-ce que les professionnels sont prêts?
Alors la capacité d'accueil sera encore limitée à 50%, mais c'est déjà un pas de plus vers un retour à la normale et les demandes de réservation risquent d'affluer. Alors à moins de 24 heures de cette réouverture, les restaurateurs sont dans les starting blocks, comme l'a constaté Victor Pourchet.
Uniquement des bruits de couverts et de vaisselle pour l'instant, mais dès demain, les clients pourront s'installer à nouveau dans la salle du Cœur de Braise à Paris. Et pour le gérant, Yvan, même avec ce beau soleil, ce sera un petit plus.
Les gens déjà, ils sont habitués à être dehors grâce à la météo qu'on a en ce moment. Mais l'intérieur, ça va aider un petit peu parce qu'il y a toujours les petites grand-mères qui préfèrent être à l'intérieur. Ce sera une reprise progressive.
Surtout que les réservations augmentent, plus 134% par rapport à l'année dernière selon le site de réservation The Fork. Giorgio dirige la crêperie Le Petit Jocelyn à Paris. Il va chercher du renfort.
J'ai retrouvé 100% de mon staff et effectivement, vu que les clients sont là, je risque d'avoir besoin de recruter dès la semaine prochaine. On va voir comment ça se passe, mais en tout cas, on est prêt.
Mais le vrai retour, ce sera à la fin du mois, quand les jauges seront levées. Et les professionnels, comme Didier Chenet, le président du groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration, sont très confiants.
Quand les clients viennent, on sent qu'ils se font plaisir et donc dépensent plus.
10% d'augmentation de la note pour un quart des clients. Signe d'un enthousiasme réel et coup de pouce bienvenu pour les restaurateurs.
Et on en reparle tout à l'heure dans moins de 40 minutes maintenant avec mon invité à 6h40, Marcel Bénézé, président de la branche Café Bar Brasserie du syndicat Géani Sinorca et lui-même gérant de deux établissements. On va voir où en sont les préparatifs.
Dans l'actualité aussi, la cliente soupçonnée d'avoir proféré des injures racistes contre une caissière d'un magasin Carrefour d'Annemasse en Haute-Savoie a été placée en garde à vue. La chaîne de supermarché avait déjà annoncé qu'elle portait plainte le week-end dernier.
Il est 6h04 sur Europe 1. De nombreux parquets réclament plus de moyens au volet judiciaire pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Et les procureurs demandent notamment que chaque parquet soit doté d'un assistant spécialisé dédié exclusivement à cette grande cause nationale. Laureline Perfit, procureure de la République de Mans.
Nous sommes sous-dimensionnés par rapport à la délinquance de violence conjugale, qui est un contentieux de masse. Il y a à peu près 700 enquêtes en cours actuellement sur le ressort du parquet de Meaux. Donc c'est un contentieux très lourd en termes de volume et on nous demande, et il faut faire du sur-mesure sur ces dossiers-là, extrêmement sensibles. Et il convient non seulement évidemment de mettre en œuvre des dispositifs de poursuite classiques, de répression, de sanction des auteurs, mais aussi de mettre en œuvre des dispositifs dispositif de protection pour les victimes et nous n'avons clairement pas les moyens de faire du sur-mesure. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que la lutte contre les violences conjugales est une grande cause nationale. Lorsqu'on souhaite se doter d'une politique ambitieuse, il faut savoir s'en donner les moyens, c'est certain.
Propos recueillis par Marion Dubreuil. Ce vaste coup de filet à travers le monde contre le crime organisé, les polices de plusieurs pays d'Europe, mais aussi des États-Unis, d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont réussi à décoder les communications cryptées de réseaux criminels depuis 3 ans. Annonce de la police australienne ce matin qui a arrêté pas moins de 224 personnes dans toutes les régions du pays.
Vous parliez des États-Unis. Pendant que Joe Biden, le président américain, prépare sa venue en Europe, sa vice-présidente Kamala Harris poursuit, elle, son voyage en Amérique centrale, son tout premier déplacement à l'étranger.
Kamala Harris a fait étape au Guatemala hier pour parler immigration, alors que Washington a présenté un plan de développement et d'aide humanitaire pour la région. Et si l'administration Biden veut afficher un visage plus humain sur ce sujet que sous l'ère Donald Trump, Kamala Harris a affiché hier sa fermeté.
Je veux être clair envers les personnes de cette région qui envisagent de faire ce dangereux voyage vers la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ne venez pas. Ne venez pas. Les États-Unis continueront à appliquer leurs lois et à sécuriser leurs frontières. Il existe des méthodes légales par lesquelles l'immigration peut et doit se faire. L'une de nos priorités, c'est de décourager l'immigration illégale.
Voilà, Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis. Et puis au Canada, un jeune homme de 20 ans a été arrêté et inculpé du meurtre de 4 personnes d'une même famille musulmane tuées lors d'une attaque à la voiture Bélier. Il y a des preuves qu'il s'agissait d'un acte prémédité et planifié, motivé par la haine, selon la police locale.
Europe 1. 6h06 sur Europe 1. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, s'envolera le mois prochain dans l'espace pour le tout premier vol spatial touristique. On en parle dans une petite seconde. À tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Il est 6h09, la suite du journal avec vous, Sophie Echen.
Partir en voyage dans l'espace, voilà qui fait rêver la plupart d'entre nous. Eh bien, le rêve est en passe de devenir réalité, puisque Jeff Bezos, le patron d'Amazon, annonce qu'il sera lui-même passager du tout premier vol réservé au tourisme spatial. Ce sera le 20 juillet, promet-il, et à bord d'une fusée créée par Blue Origin, sa propre société. Alors, en quoi va consister ce vol, Lord Autriche ?
Alors, ce n'est pas un voyage en orbite autour de la Terre, mais les passagers pourront flotter pendant quelques minutes à la frontière de l'espace. Ils seront dans une capsule qui montera à 100 km d'altitude. C'est autour de 100 km qu'on établit la frontière de l'espace. Les passagers seront à ce moment-là en apesanteur, avec une vue spectaculaire sur la Terre. Il y aura à bord Jeff Bezos, son frère, et une troisième place a été mise aux enchères et a atteint pour l'instant 2 800 000 dollars. Après quelques minutes en apesanteur, la capsule commencera sa descente vers la Terre en chute libre, freinée par 3 grands parachutes ensuite et des rétrofusées pour finalement atterrir dans un désert du Texas. Il y a quand même une inconnue, la fusée de Jeff Bezos a réussi une quinzaine de tests jusqu'à 100 km au-dessus de la Terre, mais elle n'a encore jamais volé avec des humains à bord.
Voilà, qui veut être un cobaye? Et puis le prix du billet pour être un cobaye est pas donné, hein, je crois.
2 800 000 dollars pour l'instant, hein, puisque ce sont des enchères.
À bon entendeur, c'est des enchères en plus. Bon, oui. Super. Merci, c'était le journal de Sophie Echen. Il est 6h10. Le journal des sports avec Lénaïque Monnier. C'est le grand retour ce soir des supporters au Stade de France.
À l'occasion de ce dernier match de préparation avant le coup d'envoi de l'Euro face à la Bulgarie et devant effectivement 5000 invités, dont des soignants. Sur le plan sportif, on attendra surtout de voir comment évoluera le trio d'attaquants.
Et à propos de l'Euro toujours, on va parler du maillot ukrainien, Lénaïque, qui a déclenché une polémique en Russie.
Oui, alors vous le savez, les relations sont très tendues entre les deux pays depuis 7 ans. Le conflit porte sur la Crimée. Simon Rubin, c'est ça qui a mis le feu aux poudres, hein.
Exactement. Sur le maillot jaune ukrainien, au niveau du cœur, on peut voir les contours des frontières de l'Ukraine en surimpression, qui inclut la Crimée, pourtant annexée par la Russie en 2014. Et ça ne s'arrête pas là, puisque sur ce même maillot, les Ukrainiens mettent en avant un slogan « Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros ». Parole d'un chant patriotique repris notamment par les opposants ukrainiens à la Russie. On peut se souvenir aussi qu'au Mondial 2018, l'Ukraine était absente, mais après la victoire des Croates sur les Russes, eh bien c'est le défenseur de la Croatie, Vida, qui avait hurlé le célèbre slogan « Gloire à l'Ukraine » à la fin du match. Il avait d'ailleurs été averti pour cela.
Les précisions de Simon Rubin pour Europe 1.
Un tennis à présent file à Roland-Garros avec une victoire hier d'un certain Borg.
Oui, alors vous me voyez venir, hein, pas Bjorn évidemment, vainqueur 6 fois à Paris, évidemment, mais de
Léo, son fils, son portrait craché, qui a gagné son tout premier match dans le tournoi junior hier. Alors, est-ce que papa donne parfois des tuyaux ?
Le meilleur conseil qu'il m'ait donné, c'est d'être organisé. Que mes affaires soient organisées, mais ça marche pour la vie de tous les jours. Il faut être organisé, c'est très important d'avoir tout en ordre. Mais à part ça, il ne m'a pas donné tant de conseils. Il ne me suit pas sur les cours. Ça, c'est le rôle de mon entraîneur. Mais il s'intéresse à mon tennis.
Léo Borg avec Axel May.
Est-ce qu'il porte un bandeau
Non, il n'a pas le bandeau, mais il a la même chevelure blonde et le visage, comment dire, impassible.
D'accord.
Et pour connaître tous les résultats d'hier de Nadal à Djokovic, eh bien Théo donne rendez-vous à 8h avec Corinne Boulou pour le journal de Roland-Garros.
Évidemment. Merci beaucoup, Lénaïque, pour ce journal des sports. Europe 1. C'est une vente aux enchères assez insolite qui se tient aujourd'hui à New York. La maison Sotheby's risque d'affoler les compteurs et les calculettes des fans de numismatique avec une pièce d'or de 1933 qui pourrait partir pour plus de 8 millions d'euros. On va voir ce qu'en pense mon invité inattendu qui est un passionné et un expert en la matière. Bonjour.
Oui, bonjour, Michel Sapin à l'appareil.
Bienvenue sur Europe 1, Michel Sapin. Merci d'être avec nous, ancien ministre, évidemment, de l'économie et des finances. Vous êtes aussi un passionné de monnaies anciennes. Vous en avez une vaste collection. On va voir ce que vous pensez de ces enchères du jour. On en parle dans quelques secondes.
Théo Manval sur Europe 1.
Un ancien ministre de l'économie et des finances avec nous donc à 6h16. C'est presque logique pour parler monnaie, me direz-vous. Cette passion pour les monnaies anciennes, Michel Sapin, au point d'avoir aujourd'hui une collection d'environ 2000 pièces datant parfois de plusieurs siècles, elle vous est venue d'où ?
Oh, une forme de hasard. Mon grand-père qui avait collectionné quelques monnaies grecques, quelques monnaies romaines, et puis donc l'âge de 12-13 ans, au moment où on commence à étudier cela à l'école, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière ces petits objets ronds. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qu'est-ce que ça racontait comme histoire? De qui il s'agissait? À quel moment? Et donc, je me suis passionné pour la numismatique, pour l'histoire antique, pour l'archéologie. Et j'aurais normalement dû être archéologue et numismate si je n'avais pas mal tourné ensuite.
C'était votre vocation première. Vous êtes même devenu, à 12 ans, je crois, le plus jeune collectionneur de France.
Oui, il y a une association qui s'appelle l'Association française de numismatique qui comprend des personnes tout à fait honorables mais souvent assez vénérables en âge et qui se réunissaient dans des locaux merveilleux, ceux de la Bibliothèque nationale de France à l'époque, le cabinet des médailles. Et j'étais, je crois, une sorte d'intrus étrange quand je suis rentré dans cette assemblée parce que j'étais tout jeune. Alors, ils ont créé une section jeune de l'Association française de numismatique. Je me demande si je n'ai pas été l'unique adhérent de cette section.
Et l'unique membre en dessous de 80 ans, si j'ai bien compris. C'était donc une de vos passions premières, une passion qui ne vous a jamais quitté. Je le disais, vous avez une collection d'environ 2000 pièces anciennes aujourd'hui, collection estimée à une valeur de 30 000 euros. Qu'est-ce que vous pensez de cette vente aux enchères tout à l'heure à New York et de cette pièce d'or de 1933 qui pourrait partir pour plus de 8 millions d'euros?
C'est toujours l'intérêt des records, mais c'est leur limite. Parce qu'une monnaie qui vaut très cher n'est pas forcément une monnaie très intéressante. Et vous avez donné une estimation du nombre de mes monnaies et de la valeur de ces monnaies. Si on fait une petite division, on s'aperçoit qu'on peut avoir de très belles collections, de très belles choses, des monnaies absolument passionnantes et qui ne valent pas du tout la somme en question, qui peuvent mettre dans les 50, 60, 70 euros. On a des choses absolument merveilleuses. Là, qu'est-ce qui fait le prix? C'est sa rareté, puisque si je comprends bien, c'est une monnaie qui est quasiment unique.
Mais la rareté, c'est une pièce de 1933 baptisée Double Eagle. Est-ce que vous savez d'où elle vient ou ce qu'elle représente?
C'est une des dernières monnaies de l'étalon or, donc c'est ça qui lui donne sa valeur. Et elle a été frappée, je crois, et jamais circulée. Mais c'est ça qui fait sa limite. Celles qui sont passionnantes sont celles qui ont été touchées par des milliers de personnes, comme celles que vous avez dans votre poche, qui vont animer une économie, animer une société, qui vont raconter comment on achetait, comment on dépensait, mais aussi l'institution qu'il y a derrière. Quel est le roi, quel est l'empereur, quelle est la cité, quelles sont les institutions qui ont donné la foi, la confiance dans la monnaie en question.
Vous avez une pièce favorite, tiens justement, Michel Sapin, au sein de votre collection qui réunirait ces valeurs-là?
Il y a des pièces qui sont extrêmement symboliques et très, très belles par ailleurs. Je pense par exemple aux pièces d'Athènes. Ces monnaies étaient en quelque sorte le dollar de l'époque. On en retrouve au fin fond de l'Afghanistan, on en trouve au fin fond de la péninsule arabique. Elles ont servi vraiment de référence à un modèle économique.
On entend l'étendue de vos connaissances sur le sujet, Michel Sapin. Vous êtes consulté d'ailleurs lors de certaines fouilles archéologiques. Vous faites figure d'expert aujourd'hui. Finalement, c'est une reconversion inattendue, mais pas si éloignée de l'économie et des finances dont vous avez eu la charge pendant plusieurs années.
Oui, enfin, c'est pas parce qu'on est passionné de numismatique qu'on fait forcément un bon ministre des Finances, mais enfin, c'est pas parce qu'on est aussi passionné de mystique qu'on fait un mauvais ministre des Finances. On comprend de quoi il s'agit. On sait ce que c'est que l'inflation, mais au sens réel du terme. Vous avez une pièce qui diminue en taille au cours des années, alors qu'elle affiche la même valeur. Eh bien, à la fin, elle vaut moins cher. C'est parfois la même chose pour des monnaies virtuelles aujourd'hui qui valent beaucoup un jour et très peu le lendemain.
Effectivement, le Bitcoin, par exemple, dont les cours fluctuent énormément. On va suivre en tout cas cette vente aux enchères donc à la maison Sotheby's tout à l'heure à New York. Et à quel prix s'en ira cette pièce de 1933? Merci beaucoup, Michel Sapin, d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu ce matin. Bonne journée à vous.
Bonne journée, au revoir.
Europe 1. Théo Manval.
À l'essentiel à 6h20, Emmanuel Macron attendu dans la Drôme. Aujourd'hui à la rencontre des restaurateurs à la veille de la réouverture des salles des bars et restaurants. Nouvelle étape du déconfinement. Les procureurs veulent plus de moyens pour lutter contre les violences conjugales. Ils exigent que chaque parquet soit doté d'un agent spécialisé, dédié spécifiquement à cette grande cause nationale. Et puis au Canada, 4 membres d'une famille musulmane tués et un enfant blessé dans une attaque a priori préméditée à la voiture Bélier. Le suspect, un homme de 20 ans, a été arrêté. I know we can make it. I know that we can. I know darn well we can make it out. Votre 5-7 se poursuit en musique avec The Pointer Sisters dans la partition d'Amblin Roche. On arrive dans quelques secondes.
Europe 1.
La partition Amblin Roche, l'histoire cachée derrière un artiste, une chanson, un disque. Et on célèbre aujourd'hui le premier anniversaire de sa disparition. Dans les années 70, Bonnie Pointer a fondé avec ses sœurs un groupe qui a su bousculer les tendances de leur époque grâce à un mélange rétro de jazz et de rhythm and blues. On parle évidemment des Pointer Sisters.
Et en plus d'être à contre-courant, Théo, elles ont dû s'émanciper d'une éducation très religieuse et se détourner d'une voix dans le gospel, toute tracée.
Les Pointer Sisters sont les 4 filles du révérend Elton Pointer.
Bonnie, Ruth, Anita et June grandissent à Oakland en Californie, chantent en chœur dans la Church of God de papa et au sein de la chorale d'Edwin Hawkins, le pionnier du gospel moderne qui a popularisé la chanson Oh Happy Day. Alors en cachette, elles écoutent à la radio Nina Simone, Elvis Presley, Sam Cooke ou Etta James en toute clandestinité. Les sœurs désobéissantes associent leur voix en reprenant des chansons laïques qui font la promotion de l'amour charnel. Les sœurs Pointer s'imprègnent surtout de la politique, de la culture et des musiques révolutionnaires qui galvanisent la population de la baie de San Francisco à la fin des années 60. I know we can make it. I know that we can. I know darn well.
En 1969, les deux premières sœurs à prendre officiellement leur indépendance sont Bonnie et June.
Elles forment le duo The Pointers, la paire Pointer, et leur répertoire est essentiellement composé de reprises. Anita se décide à son tour, quitte son poste de secrétaire juridique pour chanter avec Bonnie et June. The Pointer Sisters prennent forme avec l'arrivée de Ruth. En 1972, elles usent les planches des clubs de la région, accompagnent les artistes locaux dans les studios d'enregistrement comme Jefferson Airplane, Sylvester ou le chanteur et guitariste Buzz Cags.
Et que ce soit dans l'ombre d'autres artistes ou lorsqu'elles sont les héroïnes de leurs propres albums, les Pointer Sisters imposent leur style.
Voilà, un mélange de jazz, de bebop, de chansons rétro revendiquées par un style vestimentaire inspiré des années 40. Hors de question d'être catalogué et enfermé dans un seul genre. There's no need to explain anymore. I tried my best to love you. Now I'm walking out the door.
c'est en 1977 que Bonnie Pointer décide de poursuivre sa route toute seule.
Elle rejoint la maison de disques Motown à Détroit. Pendant ce temps, les trois autres, les Pointer Sisters résistantes, se réinventent en trio. Mais loin de s'essouffler, eh bien la carrière du groupe prend son envol au milieu des années 80. Les filles prennent le virage disco et ajoutent une bonne dose de synthé à leur composition. C'est un triomphe. The Pointer Sisters atteignent le point culminant de leur parcours grâce à l'album Breakout. L'aérobic I'm so excited, The Pointer Sisters.
C'est bien pour le petit sport du matin.
Exactement. Morceau particulièrement apprécié par les réalisateurs de films. On l'a beaucoup entendu au ciné. Extrait de l'album Breakout en 1983. La fondatrice des Pointer Sisters, Bonnie Pointer, nous a quittés il y a un an, le 8 juin 2020.
L'histoire cachée derrière une chanson, un artiste, un groupe. La partition d'Omblin Roche tous les matins, juste avant 6h30. Merci Omblin.
Merci à demain.
Et la météo, c'est avec vous Laurent Cabrol.
Et avec cet anticyclone qui n'a pas le bras assez long pour protéger une petite partie de la France. Alors, il fait beau partout, mais depuis hier, et depuis aujourd'hui aussi, et demain encore, nous aurons une tranche un peu humide sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, le Massif Alpin, la Côte d'Azur aussi, et la Corse. Ce sont des régions où nous aurons, dans le courant de l'après-midi, des averses, des orages, enfin bref, un temps plus agité, dans des températures, sous des températures qui sont quand même températures agréables, hein, bien sûr. Mais bon, ce ne sera pas le grand beau. Et nous avons par ailleurs, là, ça disparaîtra dans les jours qui viennent, des brouillards sur les côtes de la Manche, je détaillerai cela tout à l'heure. Les températures maximales, justement, parce que c'est ce qui nous intéresse, dans la mesure où il va faire beau partout, excepté la petite tranche dont je parlais. 19 à Cherbourg, 21 à Cabourg, 22 à Quimper, 23 à Dijon cet après-midi, Nancy et Verdun, à Nice, Clermont-Ferrand, Colmar, Sedan, Amiens, entre 24 et 25, à Bourges aussi, 26 à Lyon, 27 à Paris, à Nantes, 28 à Toulouse et Rennes, 29 à Bordeaux, et puis une belle température à Nîmes, 31 degrés. Nîmes qui connaît 300 jours de soleil par an.
Et où c'est déjà l'été.
La ville la plus ensoleillée de France.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Mardi 8 juin, beau réveil, un nouveau journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
Il est 6h30.
Est-ce qu'on va vraiment réouvrir correctement? Est-ce qu'on va pas nous remettre des jauges? Est-ce que voilà. Donc là, j'ai un peu peur.
Attention au variant Delta qui cause une grande partie des contaminations dans le sud-ouest en ce moment, mais ne devrait pas remettre en cause le déconfinement. La police, face au malaise de ses agents, 1 sur 4 aurait déjà eu des idées noires lui-même ou en aurait entendu exprimées par des collègues. Et puis 5000 spectateurs au Stade de France pour pousser les Bleus face à la Bulgarie ce soir. Dernier match de préparation à l'Euro de football.
Juste après ce journal, Emmanuel Macron à la rencontre des restaurateurs aujourd'hui à J-1 de la reprise du service en salle. Où en sont les préparatifs? Quel bilan de la réouverture des terrasses il y a 3 semaines, de la baisse des aides aussi qui a commencé? Mon invité Marcel Bénézet du Groupement National des Indépendants. Bon réveil, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ne l'appelez plus variant indien, mais variant Delta. Changement de nom, mais on ne baisse pas la garde. La préfecture des Landes a confirmé hier 29 cas positifs. Les restaurateurs rencontrés par Benjamin Peter espèrent que la nouvelle phase du déconfinement demain ne sera pas gâchée.
ça fait peur. Que ça recommence, quoi. Parce que là, je pense qu'il n'y en a plus d'un qui se relèvera pas.
Julie suit attentivement l'évolution de ce variant dans le département. Elle, qui tient un restaurant italien, a peur de l'impact des touristes cet été.
Juste que les gens ne fassent pas n'importe quoi cet été et qu'on ne soit pas reconfinés en septembre.
Après 7 mois, Kevin lui ouvre demain sa salle et sa terrasse et il redoute qu'à cause du variant, on retarde le déconfinement à la fin du mois.
Parce que le 30 juin, on ouvre normalement, globalement. Donc là, j'ai un peu peur. Est-ce qu'on va vraiment réouvrir correctement? Est-ce qu'on va pas nous remettre des jauges? Est-ce que, voilà.
Alors pour les autorités, pour le moment, pas question de repousser le calendrier du déconfinement. Ce qui est notamment rassurant pour Didier Couteau de l'ARS, c'est qu'aucune des 29 personnes actuellement contaminées n'était pleinement vaccinée.
Au mieux, on avait une personne qui avait eu deux injections et la deuxième injection est arrivée au moment vraiment où on a détecté chez elle la présence du variant indien. Et puis il y avait simplement deux autres personnes avec la première dose et dans un délai de moins de 15 jours. Donc la vaccination n'est pas du tout remise en cause, au contraire.
Elle va donc s'intensifier. 2500 doses vont s'ajouter à celles déjà disponibles dans les Landes et le dépistage va également être renforcé dans les établissements scolaires, dans les lieux fréquentés par ces personnes contaminées, avec un séquençage plus systématique pour repérer et contenir au maximum la progression de ce variant. À Mont-de-Marsan, Benjamin Péter, Europe 1.
Et c'est demain également que les touristes étrangers seront de nouveau officiellement les bienvenus en France.
Oui, ça s'annonce d'ailleurs comme une vraie compétition entre pays européens, chacun voulant se montrer le plus attractif. Sur la question des exigences sanitaires, Carole Ferry.
Oui, l'Espagne, par exemple, a annoncé ouvrir grand ses frontières à toutes les personnes vaccinées, Baléares et Canaries compris. Le pays ne veut pas rater sa saison estivale. L'an dernier, il s'était montré très prudent et bien cette année, il veut reconquérir sa place de deuxième destination la plus prisée au monde. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, un test antigénique suffit désormais, moins cher que le PCR. Un argument de plus pour séduire les ressortissants des pays dans lesquels les tests ne sont pas gratuits. La Grèce compte bien également redynamiser son économie touristique et pour cela, elle veut rassurer avec le concept d'île sans Covid. Une quarantaine d'îles grecques dans lesquelles tous les habitants ont été vaccinés. C'est toutefois toujours en cours dans les plus prisés comme Mykonos, Santorin ou Paros. Une idée reprise par l'Italie, tous les habitants de l'île de Procida dans la baie de Naples ont été vaccinés. Capri veut faire de même. L'Italie qui veut également séduire avec ses TGV Covid-free, des trains qui n'acceptent que des voyageurs munis d'un test négatif.
Merci Carole Ferry. Au Canada, 4 morts hier dans une attaque à la voiture Bélier dans le sud-est du pays. Un homme de 20 ans au volant de son pick-up. Selon la police, il a visé délibérément des personnes musulmanes. Un acte prémédité et planifié. Et puis en Australie, 224 arrestations ces dernières heures et des centaines d'autres hors du pays. Le crime organisé, dont les membres utilisaient une application de messagerie chiffrée, mais que le FBI avait réussi à décoder.
6h34 sur Europe 1, plus de 6000 policiers français interrogés par la Mutuelle Générale des Forces de Sécurité. Et ce chiffre, 1 sur 4 a déjà eu des pensées suicidaires ou entendu des collègues en exprimer.
Et ce, dans toutes les tranches d'âge, comme cet agent de 28 ans qui préfère garder l'anonymat sur ce sujet tabou dans la police.
Ça faisait partie des issues possibles au point d'y réfléchir avec l'arme posée sur la table basse. À se demander si c'était pas en fait la meilleure solution pour arrêter cette spirale en fait. Au niveau de la hiérarchie, il n'y a pas de soutien, ça enfonce même dès que possible. Et le seul truc qui les intéresse, c'est le chiffre qu'on va ramener. Il faut faire tant d'interpels, il faut faire tant de PV. Certains commissaires, certains officiers attendent qu'on soit des robots et quand on ne l'est pas, ça va être des sous-entendus, comme quoi on travaille pas bien, comme quoi on n'est pas un bon fonctionnaire. On se demande si on est vraiment utile.
Et ce malaise, vous en avez parlé autour de vous ?
Alors non, moi j'en ai parlé à personne. Personne n'a été au courant. Déjà, en parler aux collègues, c'est montrer une forme de faiblesse. C'est-à-dire, voilà, j'ai pas les épaules pour encaisser ce taf. En parler à la hiérarchie, c'était même pas la peine. Qu'on a aussi cette peur d'être désarmé, en fait. Pendant un certain temps, ils peuvent... En fait, nous saisir notre arme. Et du coup, je pourrais plus aller sur le terrain, je pourrais plus faire ce pour quoi je suis rentré, en fait. Un flic désarmé, c'est pas un flic, en fait.
Un témoignage recueilli pour Europe 1 par Romain Oquet.
On termine avec les sports et le football. François Geffrier, deuxième et dernier match de préparation des Bleus à l'Euro ce soir, 21h10 face à la Bulgarie.
Oui, et donc dérogation au couvre-feu pour 5000 personnes, notamment des soignants invités dans les tribunes du Stade de France. Sur le terrain, Cyril de la Morinerie, il s'agit de continuer à monter en puissance.
Oui, évidemment, la Bulgarie, engluée à la 71e place mondiale et non qualifiée pour l'Euro, n'a pas le pédigré de l'Allemagne que les Bleus affronteront le 15 juin à Munich. Mais après 2 semaines de préparation sans nuages et un succès facile face au Pays de Galles, les Bleus ont encore besoin de peaufiner leurs réglages. S'imposer ce soir serait forcément bon pour la confiance, mais l'essentiel est ailleurs. prévient le capitaine Hugo Lloris.
L'objectif, il n'est pas de se jauger. L'objectif, c'est d'avoir du temps de jeu, c'est de trouver des repères, que ce soit sur le plan individuel, mais surtout sur le plan collectif. C'est également confirmer toutes les bonnes choses qui ont été faites durant la semaine de préparation.
Et notamment confirmer la belle entente du trio offensif Mbappé, Griezmann, Benzema. L'attaquant du Real Madrid n'avait pas réussi à marquer à Nice contre le Pays de Galles et tentera de faire trembler les filets. Son concurrent en attaque, Olivier Giroud, qui a marqué 22 de ses 44 buts en bleu au Stade de France, pourrait jouer une partie du match. Enfin, N'Golo Kanté, ce milieu de terrain de poche qui sait tout faire, dixit Hugo Lloris, devrait retrouver sa place de titulaire aux dépens de Corentin Tolisso.
Cyril de la Morinerie.
Merci, c'était le journal de François Geffrier. Il est 6h37. Europe 1. L'heure d'accueillir l'invité de ce 5-7. Bonjour Marcel Bénézet.
Bonjour.
Président de la branche Café Bar Brasserie du syndicat GNI Norca. On est à la veille de la réouverture des salles, des restaurants, derniers préparatifs partout en France. Alors quel état d'esprit pour cette nouvelle phase du déconfinement? Quel premier bilan de la réouverture des terrasses il y a 3 semaines? Quelles attentes pour la suite? On voit ça avec vous dans quelques secondes. A tout de suite.
Théo Manval sur Europe 1.
Marcel Bénézet, représentant des patrons de cafés, bars et brasseries au Groupement National des Indépendants, est donc avec nous. Et le soleil est au rendez-vous cette semaine pour le retour du service à 100% en terrasse et la réouverture des salles, des restaurants en demi-jauge. Ça vous rend optimiste pour cette deuxième phase de reprise, Marcel Bénézet?
Ah ben, tout à fait. Vous pensez bien que déjà de pouvoir servir sur nos terrasses, c'est déjà jusqu'à 23 heures déjà, et en totalité de jauge, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de jauge sur la terrasse, on pourra servir à 100% sur les terrasses, 50% dans nos établissements. C'est le retour enfin dans nos intérieurs, et vous pensez que la joie de nos clients et celle des restaurateurs de pouvoir enfin travailler à peu près normalement. Mmh.
Le couvre-feu repoussé à 23 heures, ça va permettre le retour d'un vrai service, entre guillemets. On avait un petit peu adapté les menus pour faire plus vite et plus simple dans de nombreux restaurants.
Tout à fait. Aujourd'hui, on pourra faire un deuxième service complet, c'est-à-dire jusqu'à 23 heures, ce qui nous permet de servir, de pouvoir servir déjà, de faire même peut-être de pouvoir deux services, parce que vous avez une clientèle qui arrive des fois à 18 heures pour faire un petit peu de picorage, et puis après derrière, vous avez les clients qui viennent dîner. Ouais. Donc c'est bien sûr, pour nous, ça va être un changement au niveau de la rentabilité, bien sûr.
Et changement aussi pour la rentabilité, c'est que les terrasses vont à nouveau pouvoir accueillir 100% de leur capacité. Quel bilan vous tirez dans la profession de leur réouverture à 50% il y a 3 semaines maintenant?
Ça a été un succès, bien sûr, mais avec toutes les contraintes, parce qu'aujourd'hui, et il faudra quand même toujours être vigilant au protocole sanitaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il existe toujours lavage des mains, désinfection des tables, pas plus de six personnes à table, pas de service debout, les bars ne pourront pas réouvrir, pas de service, que du service à la table. Donc, bien sûr, mais nous en sommes ravis quand même, parce qu'aujourd'hui, il y avait un besoin de retrouver ces lieux.
Mais pour
la clientèle et pour les chefs d'entreprise.
Bien sûr. Pour ceux qui ont pu rouvrir en terrasse. On s'est parlé il y a quelques semaines, vous nous disiez que la moitié environ des établissements en France avaient des terrasses. Pour ceux qui ont pu le faire, cette réouverture en demi-jauge depuis 3 semaines, ça a permis quand même d'amorcer une reprise de trésorerie.
Tout à fait, ça a été le cas, surtout qu'il y a eu le maintien des aides pour le mois de mai. Au mois de juin, ça sera au cas par cas. Aujourd'hui, la situation s'éclaircit pour nous. Il était temps. Moi, je suis en tant qu'élu Chambre de commerce de Paris qui représente tous les commerces parisiens. On a un effet d'aubaine sur le commerce en général.
C'est-à-dire que le fait de revenir dans les bars, dans les restaurants, ça incite à aller faire ses courses et à retrouver
Exactement,
les magasins.
Exactement, le commerce de proximité a beaucoup plus fonctionné. Les gens se sont arrêtés sur les terrasses pour boire un verre. On a retrouvé, d'ailleurs, dans Paris et dans toutes les villes de France, on a retrouvé une ambiance, une atmosphère de conviviale estivale. D'ailleurs, ces terrasses vont s'appeler les terrasses estivales qui sont installées à partir du mois d'avril, du 1er avril jusqu'au 31 octobre. Et pour la ville de Paris, je pense que ça donnera un côté festif qu'on a avait perdu depuis 7 mois déjà.
Effectivement, c'est un cercle vertueux à vous écouter. Vous le disiez, on a appris ces derniers jours que les terrasses éphémères à Paris seraient pérennisées. Elles vont pouvoir rester installées chaque été désormais du 15 mars au 15 septembre. C'est une bonne nouvelle là aussi pour les bars et les restaurants que vous représentez, j'imagine.
Alors c'est une bonne nouvelle, mais il faudra être très vigilant parce qu'il ne faudra pas faire n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui dans Paris, on voit un petit peu fleurir à droite à gauche des palettes, des couvertures sur ces terrasses alors que c'est interdit. Mmh. Les gens ne se sont pas référencés déjà à la première charte qu'ils ont signée. Ils font un petit peu n'importe quoi et je les préviens que aujourd'hui ça va être étudié qu'à partir du 1er juillet, ils pourront faire une demande d'autorisation qui sera étudiée cas par cas et ceux qui n'auront pas été les bons élèves risquent de se voir privés d'une terrasse saisonnière estivale.
Il faudra que ce soit validé, effectivement, je crois, par le maire d'arrondissement. Et puis, il y a une contrainte, c'est qu'il faudra les payer, ces terrasses, de la part des restaurants, mais uniquement à partir du 30 septembre. Ça veut dire que ça vous laisse la gratuité pour cet été. Ça, c'était important pour vous.
Ça, bien sûr, la mairie de Paris a fait un gros effort. Par contre, il nous restera le mois d'octobre à payer, ce que je trouve un peu bon pour un mois. Je pense que la mairie, je sais bien que c'est compliqué et que la mairie a besoin de rentrer de la fiscalité parce qu'effectivement, la mairie était très généreuse, comme le gouvernement l'a été aussi. Mais aujourd'hui, à partir du premier de l'année prochaine 2022, ces terrasses seront payantes, ce qui est normal aussi. D'ailleurs, on comprend très bien.
Ça veut dire que vous allez quand même pouvoir.
Et la tarification raisonnable.
Ça veut dire que vous allez quand même pouvoir là aussi refaire une trésorerie cet été pour pouvoir ensuite les payer ces droits de terrasse.
Alors bien sûr, à partir de l'année prochaine, mais sur Paris, ça va être plus compliqué, parce qu'à Paris, nous sommes une ville touristique. Aujourd'hui, le tourisme s'annonce très très mal. Très mal. Mmh. En province, j'espère que les maires de villes et de villages de France auront la même démarche pour les restaurateurs, mais pas que les restaurateurs. Vous avez les commerces culturels, les librairies, les disquaires, les hôtels, les fleuristes qui pourront installer aussi une terrasse sur les places de stationnement. Mmh. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ce qui va changer complètement le regard des villes.
Oui, et voilà en tout cas pour les terrasses parisiennes, on entend votre appel pour les autres villes de France. Pour le reste, Marcel Benezet, dans tout le pays, la baisse des aides a commencé au 1er juin avec le déconfinement, la restauration ne fait pas exception. Ce mois-ci, les établissements vont toucher 40% du montant de leurs pertes par rapport au chiffre d'affaires de 2019. Ce sera 30% en juillet, 20% en août, c'est un rythme de baisse raisonnable.
C'est un rythme de baisse raisonnable, bien sûr, mais il y aura des cas par cas, parce que vous avez aujourd'hui des établissements qui ne vont même pas réouvrir encore, qui n'ont pas de terrasse, et qui sont des petits établissements parce qu'ils ne jaugent à 50%, ne leur permet pas de réaliser un chiffre d'affaires suffisamment pour faire venir du personnel. On va avoir encore des cas, bien sûr, isolés, mais il y aura des cas où il faudra étudier leur situation au cas par cas.
Voilà, écoutez ce que nous disait ce week-end sur Europe 1 ce restaurateur strasbourgeois.
Moi, j'ai pas de terrasse, j'ai rien du tout. Donc, en juillet, août, c'est la période la plus creuse. Et la plus forte, c'est à partir de septembre jusqu'à mars-avril. Les aides auraient été en continu jusqu'à septembre-octobre, ça aurait été une bonne chose. Là, maintenant, on s'est déjà endetté maintenant avec le prêt garanti de l'État. On a commencé à le rembourser déjà cette année alors qu'on est encore fermé. On a des gros loyers. On a un peu peur de devoir mettre la clé sous la porte.
Voilà, le patron de la Tête de l'Art à Strasbourg au micro de Mélina Fachin. D'un mot, Marcel Benezet, c'est votre crainte aussi un arrêt trop brutal de cette perfusion?
Mais tout à fait. C'est les problèmes que nous avons soulevés à Bercy avec M. Bruno Le Maire et M. Alain Griset, qui sont au courant de la situation et qui sont attentifs à tout ça. Bien sûr que ce que je crains à partir du mois d'octobre, qu'on s'aperçoive réellement de la casse qu'aura fait cette pandémie, parce que dans notre profession, il y aura quand même de la casse, on en est certain et convaincu. Malheureusement, c'est bien triste. Et j'espère qu'on pourra aider ces personnes à tenir le passage jusqu'à la rentrée. Parce que nous, à Paris, la vie parisienne va reprendre à partir du 12 septembre, comme c'est le cas chaque année, en espérant que les salons vont reprendre. Parce que moi, étant élu à la Chambre de commerce de Paris, nous attendons les salons à la porte de Versailles. Aujourd'hui, la programmation est très faible.
Oui, pour l'instant, ça va mettre du temps à repartir. On vous souhaite en tout cas une très belle réouverture, ainsi qu'à tous les patrons de bars et restaurants qui nous écoutent ce matin. Reprise du service en intérieur et terrasse à 100% de leur capacité demain. Merci Marcel Benezet, président de la branche Café Bar Brasserie du GNI Sinorca, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.
Merci, bonne journée à vous.
Europe 1.
L'innovation du jour arrive dans votre 5-7 avec Anissé Mbida. A tout de suite.
Europe 1. Théo Manval.
À 6h10, l'innovation du jour avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Théo.
Et vous nous parlez restauration rapide ce matin, après les bornes en libre-service qui nous servent toujours plus vite désormais. Ça va être des robots qui vont prendre nos commandes au drive-in.
Oui, et ça se passe déjà comme ça chez McDonald's. Quand on arrive en voiture au drive-in, on ne parle plus à un être humain, mais à une machine qui nous fait la conversation, qui nous demande mayonnaise, ketchup, frites, patatos. Et dans la plupart du temps, on ne se rend compte de rien. Parce que l'objectif, vous l'avez dit, hein, c'est de réduire réduire les files d'attente qui ont triplé pendant la pandémie. Et même si les salles de restaurant rouvrent demain, bah, ils s'attendent à ce que beaucoup préfèrent toujours passer au drive-in plutôt que de manger sur place, hein, notamment les restaurants qui sont hors des centres-villes et dans les zones commerciales. Et c'est pour ça qu'ils testent la prise de commande par les robots et même des tapis roulants qui apportent directement les commandes.
Vous nous dites que c'est déjà le cas. Est-ce que ça marche bien? Comment réagit le robot si on lui demande un hamburger sans sauce, par exemple?
Il panique, il bug et c'est un être humain qui prend le relais. Apparemment, une commande sur cinq nécessite encore une intervention humaine, ouais. Mais ça n'empêche pas d'automatiser jusqu'à 80% des commandes au driving, et ce qui permet par exemple de réaffecter une bonne partie du personnel à la préparation de ces commandes, justement.
Pour aller plus vite et pas se tromper sur les sauces.
Exactement, très important. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle, hein, des robots qui allaient piquer le boulot des humains. Jusqu'ici, ça restait un petit peu hypothétique, mais là, ça commence sérieusement à se préciser. Alors, pour le moment, c'est testé uniquement dans une dizaine de restaurants dans la région de Chicago aux États-Unis, mais l'objectif, c'est bien de le déployer dans le monde entier, partout où il y a des driving. Et ça inquiète d'autant plus que McDonald's est aujourd'hui un des tout premiers employeurs de France.
Effectivement, les robots qui prennent nos commandes au McDo. Merci Anissé Mbida, votre innovation du jour. À demain. Ils sont nos yeux et nos oreilles sur tous les continents. Les correspondants d'Europe 1 nous attendent pour la revue de presse internationale. Et on commence au Canada ce matin avec vous, Alexandre Lepoutre. Bonjour.
Bonjour.
Et avec donc ce fait divers tragique, hein, on en parle depuis ce matin, c'est l'information de la nuit chez vous.
C'est une attaque à la voiture Bélier qui a tué quatre membres d'une même famille à London, à 200 km de Toronto. Des victimes qui auraient été ciblées en raison de leur foi musulmane. La police locale parle d'un acte prémédité, islamophobe, et n'écarte pas la possibilité de porter des accusations de terrorisme. Le suspect, un homme de 20 ans, qui n'a pas de casier judiciaire et qui portait un gilet pare-balles au moment de son arrestation. L'émotion est vive dans cette communauté qui compte 30 000 musulmans, selon le journal de Montréal. Le Premier ministre Justin Trudeau s'est dit, lui, horrifié par cette haine qu'il qualifie d'insidieuse et méprisable. Il ajoute que l'islamophobie n'a sa place dans aucune des communautés du Canada. Pour la CBC, cet acte raciste ravive le souvenir douloureux d'une fusillade de masse dans une mosquée de Québec en 2017. Un suprémaciste canadien avait ouvert le feu sur des fidèles, faisant 6 morts et 5 blessés graves.
Alexandre Lepoutre, correspondant d'Europe 1 au Canada, direction les États-Unis, où nous attend Alexis Guilleux à présent. Bonjour Alexis.
Bonjour.
De quoi parle les journaux à New York?
Eh bien, du voyage spatial de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde va quitter la planète, titre le New York Magazine, à bord de la fusée de sa propre entreprise. Le décollage est prévu le 20 juillet, explique CNN, pour un vol de 11 minutes à environ 100 km de la Terre. Jeff Bezos sera accompagné de son frère Mark. Le patron d'Amazon est depuis longtemps fasciné par l'espace, rappelle le Washington Post. Son entreprise Blue Origin a déjà réussi 15 vols spatiaux sans passagers. Et ce voyage serait un pas de géant pour lui, premier milliardaire à aller dans l'espace. Sur ce marché émergent du tourisme spatial, Blue Origin est en concurrence avec Virgin Galactic de Richard Branson, souligne le Wall Street Journal. Des voyages qui coûteront plusieurs centaines de milliers de dollars à leurs passagers. D'ailleurs, le dernier siège du vol de Jeff Bezos a été mis aux enchères. Le gagnant sera désigné le 12 juin. Hier, les plus hautes offres dépassaient 3 millions de dollars.
C'est déjà beaucoup. Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. On termine ce tour d'Amérique un peu plus au sud ce matin, au Pérou, avec vous Amanda Chaparro. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui occupe la presse à Lima ?
À la une des journaux, l'élection présidentielle de dimanche, ultra polarisée et dont les résultats se font toujours attendre. Égalité technique, titre La Repubblica, avec la photo des deux candidats. Des candidats aux extrêmes de l'échiquier politique. À droite, Keiko Fujimori, représentante de la droite la plus radicale. Elle est poursuivie en justice pour blanchiment d'argent. Elle affronte l'instituteur Pedro Castillo, le candidat de la gauche, qui a été accusé pendant la campagne de vouloir instaurer un gouvernement communiste. Les résultats dépouillés à 95% donnent une légère avance à Castillo, mais moins de 100 000 voix les séparent. La course se jouera au bulletin près, titre le journal populaire L'Expresso. Le quotidien El Comercio, lui, appelle au calme en attendant le résultat final, tandis que Keiko Fujimori a dénoncé hier soir des actes de fraude.
Amanda Chaparro, Europe 1 au Pérou, votre fenêtre sur le monde avec nos correspondants, c'est tous les matins, juste avant 7h. Europe 1. 6h55, la météo et le journal arrivent dans quelques secondes. Et puis Sébastien Krebs qui s'installe pour le 7-9. À tout de suite. Il est 6h58, bon réveil à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis depuis 5h. Sébastien Krebs est là pour vous informer jusqu'à 9h. Bonjour Sébastien.
Bonjour Théo Manval, merci et à demain. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour ce 7-9. On écoute le monde changer et voilà une ambiance qui va changer. Ça, c'était les stades vides de supporters. Eh bien la ferveur va faire son retour ce soir au Stade de France. Alors ce ne sera pas encore la foule habituelle que vous entendez, ils ne seront que 5000. Mais c'est une première et une dérogation au couvre-feu.
Ce qui m'a le plus manqué au stade, c'est la cohésion. Pouvoir être tous ensemble, ça y est, on est vraiment à fond dedans. Montrer en fait à nos bleus qu'on est derrière eux. Les pousser jusqu'à une finale et pourquoi pas un nouveau titre.
France, Bulgarie, dernier match de préparation des bleus. Ne manquez pas le journal de l'Euro tout à l'heure, 8h35. Des chants dans les stades et des rires au cinéma. Demain, vous pourrez enfin profiter des séances du soir. Et sur Europe 1, ce matin, on vous conseille cette comédie, Le Discours.
Je crois que ça ferait très très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie.
Oh putain, je l'avais pas vu venir celle-là.
Le discours adapté du roman de Fab Caro, c'est drôle, c'est décalé, c'est absurde. Benjamin Laverne qui porte ce film est mon invité dans le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour Sébastien, bonjour, rebonjour à tous. Eh bien c'est une météo qui ressemblera comme une sœur à celle d'hier, bis repetita de placente, puisque nous allons avoir exactement le même type de temps, avec dans le courant d'après-midi des orages qui vont se manifester en Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Massif Alpin, la Côte d'Azur et la Corse seront touchés aussi. Et ce type de temps devrait quand même durer dans cette partie de la France. Hein. Ça devrait durer au moins jusqu'à jeudi ou vendredi, avec des chaleurs, avec de la chaleur, puisqu'il fera quand même chaud partout. Hein. Mais c'est une petite parenthèse nuageuse et orageuse qui se manifeste dans l'Est, alors que partout ailleurs, le ciel est largement dégagé. C'est un ciel ensoleillé, avec quelques passages nuageux, bien sûr, car on ne peut pas échapper aux corolles nuageuses. Mais les températures resteront, et même vont grimper, resteront de la même veine, j'allais dire. 21 à Cabourg, 22 à Quimper, 23 à Dijon, 24 à Nice, 26 à Lyon, 27 à Paris, 28 à Toulouse, 29 à Bordeaux et 31 à Nîmes.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Bienvenue dans le 7-9 d'Europe 1. Tout de suite, votre journal.